Si vous habitez en ville, vous avez sûrement l'impression de voir de plus en plus de vélos circuler dans les rues. Les pistes cyclables fleurissent et le phénomène semble prendre de l'ampleur. Et qu'il s'agisse des vélos des particuliers, en location ou en libre service, la petite reine s'impose dans la mobilité urbaine. Mais qu'en est-il vraiment? Que représente réellement la part du vélo dans les déplacements en ville? On en parle dans un instant avec mon invité, le chercheur Sébastien Marek, qui a comparé l'urbanisme cyclable en Île-de-France et aux Pays-Bas, qui est considéré comme le pays du vélo. Vos questions à mon invité, 01 45 24 7000, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Camille passe au vert à 13h40 et aujourd'hui Camille...
Le mot sexy de la semaine, pesticide.
Ah oui, tellement, oui. Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Alexandre, un auditeur qui a imaginé une plateforme gratuite de services de déchets ménagers. Le feuilleton de la semaine avec un nouveau reportage au Groenland. Guy Vanctil a rencontré les habitants d'un village de pêcheurs qui s'oppose à un projet minier. Et puis enfin, notre invité découverte est un explorateur chasseur de mammouths. Il viendra nous parler du commerce de l'ivoire, de ses pachydermes. Voilà donc pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisée par Valérie Ayestaraï.
Mathieu Vidard, la Terre au carré, sur France Inter.
Vas-y,
tu tapes à la vie, toi.
Paris, c'est pour les bagnoles, là. Il y a la part des vélos. Va brouter de l'herbe à la campagne si tu veux pédaler.
Bonne ambiance. Bonjour Sébastien Marek.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bienvenue, vous êtes chercheur doctorant à l'université Rennes 2 et vous travaillez sur une thèse dans laquelle vous comparez le vélo en Île-de-France et aux Pays-Bas, donc qui est un peu la Mecque du vélo, une thèse cofinancée par la ville de Paris. Et à partir d'aujourd'hui, les franciliens pourront louer un vélo à assistance électrique pendant 6 mois pour 40 euros par mois, histoire de les inciter à rejoindre les gares de banlieue à vélo et remiser leur voiture au garage. Ça s'appelle Véligo. C'est une offre qui complète la gamme de propositions concernant donc le vélo en ville, hein.
Oui, c'est même une tendance très majeure ces dernières années dans les villes et les territoires français, proposer un service de location longue durée et non plus seulement des vélos en libre-service. Pendant plusieurs années, on a considéré que les vélos en libre-service étaient l'alpha et l'oméga des politiques en faveur du vélo. Mmh. Et en fait, c'est pas forcément pertinent pour tous les types de territoires. C'est bien pour les territoires denses, très mixtes en termes de fonctions urbaines, voilà, là où les logements, les activités, les commerces sont étroitement mêlés. Mais pour des territoires moins denses, les vélos en libre-service ont leurs limites, parce qu'il faut aller les chercher, il faut les redéposer. Mmh. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait une densité de stations très forte. Et donc les vélos en location longue durée, on appelle ça la location humanisée, parce qu'on va dans une agence et on s'adresse à quelqu'un pour louer un vélo.
Humains,
voilà, des êtres humains. Mmh. Donc on peut, en même temps qu'on loue un vélo, on peut se renseigner sur les comportements adoptés, sur les bonnes pratiques, sur les accessoires à se procurer. Et c'est vraiment une bonne solution. Il y a des villes qui n'ont compté que sur ça d'ailleurs. Grenoble n'a pas de vélo en libre service. Ils ont uniquement un service de location longue durée qui s'appelle Métro Vélo, qui est le second en France, 7000 vélos. Et ça permet une diversification des vélos proposés. On peut proposer des vélos cargo, des tandems, des vélos pour enfants.
Donc là, c'est 10 000 vélos qui arrivent en Île-de-France avec Véligo. Oui. Quand vous dites location longue durée, je trouve pas tellement, parce que c'est 6 mois en réalité.
Oui, on appelle ça la location longue durée par opposition à la location Vélib, où encore une bonne part des locations se fait aux 24 heures à la journée.
Pourquoi que 6 mois alors justement?
Que 6 mois, parce que l'objectif de ces services est de proposer en fait un essai du vélo. De voir si la solution vélo est vraiment une solution pour vous, en fonction de vos distances, du type de déplacement que vous faites, et aussi des aménagements, si vous avez des aménagements ou pas. Vous n'êtes pas sûr de savoir si le vélo est vraiment la solution qu'il vous faut. Alors, pour essayer, quoi de mieux qu'une location? Parce que, en fait, vous ne vous engagez pas dans un achat,
Mais le but, finalement, c'est de faire acheter un vélo après, finalement.
Bien sûr,
Se passe bien.
Si ça se passe bien, à terme, l'idée est d'acheter un vélo qui est vraiment adapté à vous. Et là, les vélos en libre-service, c'est assez limité. Vous avez le choix parfois entre un vélo mécanique et un vélo électrique, mais vous n'avez pas forcément un vélo à votre taille, avec tous les accessoires qu'il vous faut. Donc le mieux est encore que vous ayez votre propre vélo.
Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui vraiment le vélo dans la mobilité des urbains? Est-ce que d'une ville à l'autre, on observe des résultats très très différents? Est-ce que vraiment on utilise le vélo pour se déplacer, quand on regarde les chiffres?
Alors, la situation du vélo en France est celle d'un paradoxe, parce qu'il y a beaucoup de Français qui voudraient faire davantage de vélo. 60% des Français seraient prêts à se mettre au vélo et à faire du vélo leur mode principal de déplacement au quotidien. Mais on est à 3% de part modale, c'est-à-dire la part des déplacements qui sont effectués à vélo sur l'ensemble des déplacements, 3%,
c'est vraiment pas beaucoup.
Hein, ouais. On est dans la queue de peloton des pays européens. Aux Pays-Bas, c'est par exemple 27%, c'est aussi très élevé en Allemagne, en Belgique, au Danemark, etc. Toujours plus de 10% des déplacements. Et en France, on est à 3%, et même pour les déplacements domicile-travail, 2%, c'est très faible. Mais ça cache des disparités énormes entre les territoires.
Alors, par exemple, qui sont les bons élèves là dans cette histoire en France ?
Alors, un bon élève depuis les années 70, c'est Strasbourg. Strasbourg est la seule agglomération en France qui a une politique continue et ambitieuse et financée et assumée en fait en faveur du vélo depuis la fin des années 70. Donc ils ont toujours continué à créer des aménagements, à améliorer les services, à améliorer le stationnement. Et ils ont promu le vélo. Dès les années 1990, il y avait une campagne de communication à Strasbourg. Strasbourg, un vélo d'avance, au moment des travaux du tramway, des lignes de tramway, pour encourager les gens à se passer de la voiture individuelle, de sortir de ce qu'on appelle l'autosolisme, le fait de conduire seul dans sa voiture.
Ouais. Et donc aujourd'hui, la part ? On disait 2-3% pour l'ensemble du territoire et à Strasbourg.
Alors à Strasbourg, on est à peu près à 20% des déplacements domicile-travail qui sont faits à vélo. Déplacement sur 5.
Là, c'est beaucoup pour le coup. Ouais.
Et une part modale d'environ 15%. Mais Strasbourg se fait talonner désormais par des villes comme Grenoble et Bordeaux. Et puis, Bordeaux est un exemple remarquable parce que Bordeaux a réussi à doubler la part d'utilisation du vélo. En moins de 10 ans, ils sont passés à bord de la ville de Bordeaux en tant que telle de 8 à 15% de part modale. Donc, ils talonnent Bordeaux. Et sur le pont de Pierre, aujourd'hui, le pont qui a été réservé aux piétons, aux cyclistes et aux transports en commun, il y a des pointes lors de l'été à la rentrée à 12 000 cyclistes par jour. Donc, c'est tout simplement l'endroit le plus fréquenté par les cyclistes en France désormais.
Mais Sébastien Marais, quand on est à Paris, par exemple, on a le Vélib depuis quelques années, Vélib 2 maintenant, avec le fiasco qu'on a connu, ça commence à aller un petit peu mieux, évidemment. Ça veut dire qu'une ville comme Paris qui décide de mettre des vélos libre-service en place, c'est tout un retard aussi à rattraper, non ?
Oui, et puis Paris a trop longtemps peut-être misé sur simplement Vélib. Et Vélib était vraiment au cœur de la politique en faveur du vélo. Et les choses ont été bouleversées avec le dernier plan vélo qui a été adopté en 2015 par le Conseil de Paris à l'unanimité et qui prévoit un développement vraiment exponentiel du nombre d'aménagements et aussi de la sécurité à vélo, du nombre d'arceaux pour stationner son vélo dans la rue. Et donc voilà, c'est un plan qui est vraiment complet, qui est exhaustif. Et c'est pourquoi il y a autant de travaux en ce moment, parce que les travaux ont véritablement commencé en 2017 et ils se concentrent sur 3 ans grosso modo. Et donc ça fait beaucoup de travaux.
Donc ça va faire mal pendant 3 ans.
Oui, parce que ça s'ajoute aussi au réaménagement des places parisiennes. On cherche aussi à augmenter tout simplement l'usage de la marche, puisque le socle d'une ville urbaine à échelle humaine et vivable, c'est vraiment la marche et le vélo.
Ouais. Est-ce que les vélos en libre-service aujourd'hui permettent vraiment de réduire l'usage de la voiture ? Que montrent les travaux là-dessus ?
Alors, le vélo en libre-service a un impact limité, en fait. Il a un impact important en termes de visibilité et de légitimité du mode vélo, comme mode de déplacement à part entière. Donc il va renforcer son image, on va commencer à avoir des vélos un peu identiques un peu partout, et les gens peuvent se dire, tiens, c'est vraiment une solution qui fait partie du panel de solutions à ma disposition. Mais en fait, le vélo en libre-service, bien souvent, il prend de la part de marché, si je puis dire, au transport en commun et à la marche, c'est-à-dire que des gens qui auparavant marchaient, prenaient les transports en commun, vont se mettre au vélo. Et donc, ça s'adresse très peu à d'anciens automobilistes. Vélib, c'est aux alentours de 10% d'anciens automobilistes, d'après les données qu'on a. Et donc, par contre, les vélos en location longue durée ont un impact beaucoup plus fort en termes de report modal, le report de la voiture vers le vélo. Et on a des chiffres très encourageants, en particulier pour les locations de vélos à assistance électrique, où là, on a parfois jusqu'à 60-65% de gens qui auparavant prenaient la voiture, qui en louant un vélo à assistance électrique, vont faire du vélo leur mode de déplacement principal au détriment de la voiture.
On va se retrouver dans quelques instants avec les auditeurs de La Terre au Carré, Sébastien Marais. On évoquera évidemment tous les obstacles, le manque de place pour garer les vélos. Et là, on pourra s'inspirer de l'exemple justement néerlandais. Et puis, on répondra à toutes les questions, et vous en particulier, au standard 01 45 24 7000. A tout de suite.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille passe au vert. Vous revenez, Camille Cronier, aujourd'hui sur le mot qui fait la une de l'actualité ces derniers jours. Il s'agit du mot pesticide.
Et oui, vous avez entendu parler de ces maires qui prennent des arrêtés pour interdire les épandages, c'est-à-dire le moment où les agriculteurs répandent des produits phytosanitaires dans leurs champs, les interdire à moins de 150 mètres des habitations. Ce matin encore, on l'entendait dans le journal, 5 grandes villes, Paris, Lille, Nantes, Grenoble et Clermont-Ferrand, annonçaient l'interdiction des pesticides sur tout leur territoire. Alors, geste avant tout symbolique, voire électoraliste. C'est bientôt les municipales, n'oubliez pas, puisqu'en fait, seules les préfectures et donc l'État peuvent décider. Mais ça fait parler du problème et ça met la pression sur le gouvernement. Car le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, s'est dit, lui, contre l'interdiction à 150 mètres et propose plutôt une distance de 5 à 10 mètres en s'appuyant sur une recommandation de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire. Une consultation publique vient d'être lancée pour 3 semaines. Mmh. Du coup, je me suis demandé si le public donc savait déjà ce que c'était vraiment un pesticide. Pas facile.
Un pesticide. Alors, un pesticide pour moi, ce serait
on entend pesticide, oui, mais... Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça s'applique très précisément? J'avoue, j'en sais rien.
C'est des microbes bizarres.
Non, c'est des trucs qu'on met dans en dessous des arbres. Là. C'est des produits qu'on met pour que la plante pousse plus vite. C'est ça, non?
Alors presque, on se rapproche.
C'est tous les produits chimiques qu'on peut retrouver un peu dans notre nourriture, non?
Qu'on met sur les aliments, sur les légumes, etc. pour pas qu'ils se fassent manger par les petites bêtes dans les champs, c'est ça?
Est-ce que t'as déjà entendu le mot pesticide?
Oui, moi j'ai entendu.
Et alors?
Ça tue les insectes.
Pesticide, c'est une saloperie.
Alors, la définition exacte dans le dictionnaire, en tout cas, la voilà. Se dit d'un produit chimique destiné à lutter contre les parasites animaux et végétaux nuisibles aux cultures et aux produits récoltés. Les pesticides regroupent principalement les fongicides contre les champignons, les insecticides contre les insectes et les herbicides contre les mauvaises herbes. Bref, ça fait pas vraiment rêver.
C'est un mot qui vous évoque quoi, en fait?
Maladie, insectes, c'est inquiétant. Enfin, moi, c'est pas un mot que j'apprécie particulièrement.
La peur, la crainte, des fois l'inconnu, parce qu'il y a des études contradictoires.
De toute façon, moi, pesticide, ça me fait penser à homicide, hein, la même terminaison, mais c'est vrai.
Mais oui, monsieur Cid, ça vient du verbe tuer en latin. Monsieur qui habite à la campagne, il en pense quoi du coup de la distance proposée par le gouvernement?
5 mètres, c'est ridicule. Et aujourd'hui, il y a du vent, vous épandez là, ça va se déplacer à 10 mètres. Hein. Ça vole, moi je passe en voiture, des fois on est recouvert. Quoi.
Et il n'est pas le seul à trouver ça ridicule.
Ça me semble un peu du foutage de gueule, parce que enfin, autant mettre 0 mètres.
Juste avec la pluie, ça va découler un peu, ça va aller dans les nappes phréatiques et ça va forcément se répandre. Donc...
Un coup de vent et on respire tout ce qui passe là, donc ça sert à rien en fait.
Que ça soit 5 mètres ou 10 mètres ou 20 mètres, c'est hypocrite et c'est pas du tout suffisant.
Ceux qui ont dit à plus de 150, je sais pas quoi là. C'est une bonne initiative de leur part.
Alors vous entendez, eux sont lycéens, il y avait aussi des étudiantes, une mère de famille, un père de famille encore avant, cousins d'agriculteurs même, et les enfants. Bref, j'ai essayé de balayer toutes les générations. Il y a aussi Nadine, elle disait tout à l'heure, les pesticides, c'est une saloperie.
J'ai 87 ans, alors j'ai vu pas mal de choses. Là, ce sont encore des fonctionnaires qui n'ont probablement pas été tellement au courant de l'agriculture.
C'est le ministre de l'Agriculture qui dit 5 mètres. Hein.
Oui, je trouve qu'il exagère. Moi, je trouve que toute la lutte pour l'environnement actuellement, c'est important. C'est numéro un.
Eh bien, merci beaucoup, Nadine.
De rien.
Allez, bonne soirée.
Bonne continuation et tous mes voeux pour le futur. Et je suis optimiste pour vous les jeunes.
Et voilà, rien que pour ça, Mathieu, ça valait le coup de parler de pesticides.
Et on embrasse Nadine, Camille Passauvert. C'est à réécouter, bien sûr, sur franceinter.fr.
Sébastien Marek, 5 mètres, est-ce que ça change quelque chose quand on passe, par exemple, à vélo à côté d'un champ?
Non, par contre, quand on passe, quand on se fait frôler par une voiture, quelques centimètres peuvent suffire à déstabiliser un cycliste et à le dissuader de faire du vélo sa solution. Donc, c'est un problème d'ailleurs très frappant dans les milieux ruraux, périurbains, y compris en région parisienne. Les départementales sont absolument effrayantes à vélo. Et donc, il faudrait effectuer des surlargeurs ou proposer des aménagements en site propre. Et c'est d'ailleurs l'objet du collectif réseau Vélo Île-de-France qui s'est constitué au printemps et qui veut créer un RERV, V comme vélo, pour avoir un réseau continu, maillé, structuré, pour desservir, irriguer toute la première et la seconde couronne et pas simplement Paris, parce qu'il va falloir, il va y avoir cette problématique qui va émerger du hiatus, de la différence de pratique entre la ville de Paris et la banlieue. Et il faudrait éviter à tout prix que les différences de pratiques se creusent. Donc pour ça, il faut des réseaux continus et il faut plus de coupures entre Paris et la couronne.
Allez, Sébastien Maric, vous êtes notre invité. On parle vélo dans un instant. Les questions et les témoignages des auditeurs, vous nous appelez 01 45 24 7000. Fatherson, c'était Céleste.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Allez, on essaie de pédaler tous ensemble cet après-midi avec mon invité Sébastien Maric, chercheur doctorant à Rennes 2. Et cette thèse donc dans laquelle vous avez comparé le vélo en Île-de-France et aux Pays-Bas. Et les messages très nombreux sur les réseaux sociaux, sur la page de France Inter et sur celle de La Terre au carré. Et au standard, Serge est avec nous. Bonjour.
Bonjour, La Terre au carré.
Bonjour, bonjour Serge, bonjour. On vous écoute, bienvenue.
Je suis originaire d'un petit village du Gard où tout le monde se déplace en voiture. Et j'habite La Rochelle depuis 4 mois et je suis très étonné du non-respect du code de la route de la part des cyclistes. C'est dangereux pour eux-mêmes bien sûr, mais aussi c'est dangereux pour nous piétons, pour les piétons et sans parler des automobiles.
Alors,
donc, je voudrais savoir s'il est prévu une éducation à minima ou une formation à la sécurité.
Ouais. Merci Serge pour votre question. Sébastien Maric, d'abord La Rochelle, bon exemple aussi de ville qui fait beaucoup pour la mobilité
à vélo. Qui a agi dès les années 70 en créant le premier service de location de vélos, c'est des vélos mis à disposition du public.
Ouais.
Alors sur cette question, c'est une problématique qui émerge effectivement depuis quelques années et qui va s'accentuer dans les années qui viennent, les conflits croissants entre piétons et cyclistes et entre automobilistes et cyclistes. La première chose à faire, c'est de faire du vélo une priorité politique. et donc de faire des aménagements efficaces et sécurisées.
Oui.
Et on aurait résolu une bonne partie du problème en faisant ça d'abord, et puis aussi en libérant l'espace qui est aujourd'hui trusté par la voiture. À Paris, c'est 50% de l'espace public qui est occupé par le stationnement et la circulation automobile, mais dans des villes moyennes en région, ça peut atteindre 80%. Donc il y a une place vraiment résiduelle qui est accordée aux piétons et aux cyclistes, et donc fatalement il y a des conflits plus importants parce que des cyclistes qui ne sont pas en sécurité vont avoir tendance à rouler sur les trottoirs et donc à ne pas respecter, comme on dit, le code de la route.
Mais aux Pays-Bas que vous avez étudié, par exemple, il y a autant d'incivilité ou de problèmes de relations entre les voitures et les vélos ou pas?
Alors, les Néerlandais, par exemple, pour vous donner un exemple, grillent trois fois moins les feux rouges, parce qu'il y a trois fois moins de feux rouges. Il y a beaucoup moins de carrefours qui sont gérés par feux. Comme dans les villes, il y a moins de voitures, on a géré ça par régime de priorité, en fait. Et les vélos ont très souvent leurs aménagements en site propre, avec priorité sur les voitures. Et tout le monde sait où il faut rouler. Et le problème, c'est que dans nos villes, bien souvent, y compris à La Rochelle, on ne sait pas où rouler. Et les gens qui ne sont pas à l'aise avec le réseau cyclable vont avoir tendance à commettre des incivilités.
Il y a un petit message de Bobby sur le hashtag l'attaque sur Twitter. Pour développer le vélo en ville ou en campagne d'ailleurs, il dit le principal obstacle actuel, c'est la violence routière. Il parle carrément de violence.
Oui. On est dans une situation de dépendance automobile aujourd'hui. Les Français, on n'offre pas d'autre choix à une large partie de Français de se passer de la voiture. Parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour que le vélo soit vraiment une solution viable.
Et puis il y a aussi, par exemple, Xavier dans l'Ain, à la campagne, qui nous dit « Moi j'habite une petite commune de 2000 habitants, je circule au quotidien à vélo. Il n'y a aucune piste cyclable dans un rayon de 15 km. Le vélo, c'est un transport de ville uniquement ?»
Non, c'est pas un transport de ville uniquement, mais effectivement, les métropoles jouent un rôle moteur dans le développement des réseaux départementaux et même régionaux. Le premier département cyclable aujourd'hui, c'est le Bas-Rhin, et c'est à cause de la présence du réseau cyclable de Strasbourg qui peu à peu s'est diffusé dans le département, mais les départements peuvent avoir un rôle moteur. Les choses sont en train de changer parce que l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, a proposé l'an dernier un appel à projet à destination sur le vélo, qui s'appelle Vélo et Territoires, à destination des territoires périurbains et ruraux. Et cet appel à projet a eu un immense succès, au-delà des espérances, et l'enveloppe budgétaire qui était allouée a dû être allongée. Il y a eu quelque chose comme 240 territoires qui ont répondu à cet appel à projet, qui ont été sélectionnés. Et ça concerne à la fois la mise en place de services, la mise en place aussi de réseaux cyclables et le recrutement de chargés de mission, parce qu'aujourd'hui les collectivités n'ont pas l'expertise, manquent d'expertise dans la matière, et donc il faut des personnes qui puissent s'occuper de ces sujets-là à part entière.
Alors justement, Isabelle sur Twitter dit ce qui manque à Paris, mais dans beaucoup de grandes villes, ce sont des garages, des abris à vélo sécurisés aux abords des gares, des grandes stations RER pour des trajets combinés. Alors ça, c'est vraiment le nœud du problème.
Ça, c'est vrai, oui. Oui, c'est un des nœuds du problème, en fait. Tout ça fait système, on appelle ça système vélo. En matière d'automobile, vous savez où il y a des garages, vous savez où passer votre contrôle technique, vous savez où vous procurer des équipements pour votre voiture, vous savez où faire de l'essence. Vous avez des services à disposition, des infrastructures dédiées à l'automobile. Il manque encore une grande partie de tout ça pour le vélo. Et donc, pour que ça fasse système, il faut améliorer tous les aspects du système, y compris le stationnement. Et c'est une problématique majeure à Paris, mais aussi dans d'autres villes. Aux Pays-Bas, Utrecht, la quatrième ville du pays, vient d'ouvrir un immense parking à vélo, 12 500 places sur 3 étages. C'est le plus grand parking à vélo au monde.
Mais c'est numéroté, il y a des cadenas, comment
c'est
ça se passe?
C'est numéroté, vous avez des signaux lumineux, enfin des panneaux lumineux qui vous indiquent le nombre de places qui restent à disposition à chacun des étages.
Oui.
Vous avez un étage qui est directement relié à la gare, donc avec accès direct au train. Vous avez un étage qui est relié au centre commercial d'Utrecht et aux emplois du secteur de la gare. Et vous pouvez même traverser la gare à vélo. C'est aussi, il y a une voie cyclable qui traverse tout le parking, donc c'est aussi extrêmement bien fait. Vous avez des places pour les vélos avec panier, avec siège pour enfants. Et puis vous avez des racks normaux sur double étage pour garer votre vélo et avec un numéro effectivement. Et tout se fait par système badgé, donc tout est automatisé.
Donc c'est beaucoup mieux organisé que dans mon local à vélo, par exemple, où c'est un bordel monumental. Il faut vraiment avoir envie de mettre son vélo.
Vous avez la chance, vous en avez un. Parce c'est un problème de stockage, c'est ça qu'on disait. C'est que en ville, on peut pas les garer, les vélos, vous le disiez tout à l'heure. Il y a aussi un chapitre là qu'on pourrait ouvrir sur les idées reçues. Est-ce que, par exemple, on prend plus la pollution quand on est à vélo?
Non, on ne prend pas plus la pollution quand on est à vélo, en particulier quand on roule sur des aménagements en site propre, d'où l'importance d'aménager ces types d'infrastructures qui sont plus sécuritaires, qui sont plus capacitaires aussi, qui peuvent absorber un grand nombre de cyclistes. Et donc, non, on n'est plus enfermé dans une carrosserie, dans un habitacle, et que ce soit dans le métro ou dans la voiture, on est enfermé, on est prisonnier des particules fines. Et à vélo, effectivement, on est beaucoup moins soumis à ces émissions-là.
Mmh. Isabelle nous dit sur franceinter.fr, la municipalité de Noisy-le-Grand va balancer sur l'antenne, ne prévoit rien pour le vélo, pas de piste cyclable, voie mixte piéton, vélo avec pavé, peu de parking à vélo. Comment faire, demande-t-elle, pour obliger la municipalité à faire de la prospective et à anticiper le développement du vélo? On ne va pas stigmatiser Noisy-le-Grand, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, quand même.
Il faut faire du lobbying. Alors, il faut faire du lobbying à l'usage à l'échelle individuelle et collective. Ce que je peux conseiller, c'est d'aller sur le site de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, et de rejoindre l'association la plus proche pour peser, pour faire pression sur les élus et les décideurs qui sont encore beaucoup à considérer le vélo comme une, même pas comme une solution, mais comme un objet de seconde importance.
Un machin.
Voilà, un machin qui est traité avec condescendance. Et c'est en tout cas ce qu'a dit la ministre, l'ex-ministre des Transports, l'actuelle ministre de l'Environnement, Elisabeth Borne. Elle a parlé de condescendance à l'égard du vélo et je crois qu'elle a trouvé le mot juste. Et c'est évidemment, il y a moyen de faire pression via les associations. Et puis, il y a la seconde édition du baromètre de la FUB, du baromètre vélo qui vient d'être lancé pour mesurer la cyclabilité des villes, le caractère cyclable. C'est très important parce que le ressenti des usagers doit s'exprimer. Et c'est ce que permet le baromètre, c'est sur le site parlonsvélo.fr. Il faut répondre à ce baromètre pour votre commune ou pour toutes les communes sur lesquelles vous êtes à vélo.
Alors, moi, je continue sur les idées reçues. Là, c'est Paul qui nous dit le vélo est trop dangereux, les pistes cyclables sont tellement rares. Connaissez-vous le nombre de blessés et de morts en vélo chaque année? Est-ce que le vélo est plus dangereux que la voiture, par exemple?
Alors, c'est de l'ordre d'un peu plus de 150 décès chaque année.
Donc, c'est moins que la voiture?
C'est beaucoup moins que la voiture.
En France, 150
En France, et c'est beaucoup moins que les conducteurs de deux roues motorisées. Les deux roues motorisées sont beaucoup plus accidentogènes par nature, parce qu'on va plus vite sur un deux roues motorisé, et qu'on est moins protégé que dans une voiture, on prend plus de risques. Ce nombre-là est en légère augmentation ces dernières années, mais si on regarde l'évolution depuis le début des années 2000, il est plutôt stable, en fait. Et il y a ce qu'on appelle l'effet de sécurité par le nombre. Plus il y aura de cyclistes, plus il y aura de sécurité pour les cyclistes.
Véronique nous envoie un message. Aux Pays-Bas, dit-elle, les piétons sont très mal vus et n'ont pas de place dans la ville. Tout le monde roule à vélo, personne ne marche. Et c'est aussi un vrai problème. Alors ça,
c'est symptomatique d'un point de vue de touriste ou de visiteur français qui va aux Pays-Bas. Mais ce n'est pas la réalité. Effectivement, qui est impressionné par les flux de cyclistes. Dans certaines rues d'Amsterdam ou du Trecht ou de Groningen, il y a des flux à plusieurs dizaines de milliers de cyclistes du jour. Donc effectivement, ça peut être impressionnant à l'heure de pointe. Mais les gens sont habitués et surtout, les villes néerlandaises ne vont pas en arrière en concernant la place des piétons. Elles cherchent aussi à développer la place des piétons en ville.
François, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous dans la Terre au Carré, on vous écoute.
Oui, moi je voulais savoir à quoi servent ces pseudo-pistes cyclables qui sont à contresens de petites rues à sens unique. Et il y a juste un petit vélo qui est dessiné par terre. Est-ce une manière pour les municipalités de faire des petites pistes, de se donner bonne conscience?
Ah oui, je suis d'accord avec vous. Il faut y aller serré.
Je trouve ça pratique, cela dit.
Oui, c'est pratique, mais il faut y aller serré parfois.
Il faut faire attention.
Ouais, c'est pratique, c'est même indispensable, en fait. C'est l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont développé. D'abord, c'est ce qu'on appelle des doubles sens cyclables. Donc, on peut rouler à contresens dans une rue où la circulation générale est à sens unique.
Voilà.
Et c'est extrêmement indispensable parce que ça permet ce qu'on appelle la perméabilité. Ça permet d'aller à vélo dans toutes les rues et d'éviter de longs détours.
Mais oui.
Et en évitant de longs détours, on rend le vélo plus attractif. Donc c'est
comme la priorité à droite quand il y a un feu rouge pour le vélo. Moi, j'adore ça. Alors ça, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent. C'est très très bien.
On a un petit coup de gueule d'Olivia sur l'application France Inter. Elle dit c'est la jungle. Elle parle maintenant. Il y a les vélos, il y a les trottinettes dans les villes, il y a les piétons qui font n'importe quoi. Et elle est en train de dire mon vélo va peut-être retourner à la cave. C'est vrai qu'il y a d'autres moyens de mobilité qui se développent et qui viennent un petit peu mettre la pagaille là-dedans.
Oui, c'est ça, c'est la palette des véhicules en circulation grandit d'année en année. C'est pourquoi l'urgence est vraiment de modérer la circulation automobile, de réduire à la fois les flux de véhicules automobiles et leur vitesse.
Mais les pistes cyclables vont pas devenir obsolètes presque, en fait, vu la vitesse à laquelle tout change?
Alors si, c'est-à-dire qu'on devrait construire des pistes cyclables par anticipation, pour anticiper le volume de cyclistes qu'on attend dans 10 ans. Et c'est malheureusement ce qu'on fait trop peu en France. Donc Paris est en train de construire un réseau express vélo avec des pistes de 4 mètres de large. Mais peut-être que quand il y aura un flux trop important de cyclistes, ces pistes deviendront unidirectionnelles et non plus bidirectionnelles. Et qu'on sera... Mais à partir du moment où il y a un trop grand nombre de cyclistes, la première chose à faire est de réduire la circulation automobile.
Merci beaucoup Sébastien Marek. Bonne thèse à vous, hein. Vous en avez encore pour 2 ans je crois.
2 ans et demi.
À bosser sur ce thème donc, du vélo entre la France et les Pays-Bas. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs pour les nombreux messages. Juste après les infos, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Alexandre, un auditeur qui a imaginé une plateforme gratuite de services de déchets ménagers.
Inter. La Terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, retour au Groenland avec le reportage de Guy Van Til auprès des habitants d'un village de pêcheurs qui s'oppose à un projet minier. Puis notre invité découverte, l'explorateur Bernard Bouygues, viendra nous parler du commerce de défense en ivoire des mammouths. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète. Et nous sommes en ligne avec vous, Alexandre. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Saint-Brieuc et vous êtes le cofondateur d'une application qui s'appelle Oali et qui est une plateforme gratuite de services de déchets ménagers pour améliorer et simplifier la vie des éco-citoyens. Oali s'écrit H-O-A-L-I, hein, tout simple. Ça veut dire quoi d'ailleurs?
Eh ben, en fait, c'est du breton, Oali, nous on est bretons d'origine, et qui veut dire en fait le temps entre la naissance et la mort. Et nous, on a vocation justement à rallonger le temps de vie de la matière pour en limiter l'impact sur l'environnement.
Alors, quel est le départ de votre initiative? Racontez-nous un peu, parce qu'il y a une genèse intéressante.
Oui, ben, moi, je suis juriste en droit maritime de formation. Ma passion, c'est la mer et les océans. Et on voulait travailler sur lutter contre la pollution des océans par les déchets, notamment plastiques. Et on s'est dit qu'il fallait attaquer le problème à la source, c'est-à-dire auprès des individus et de leur rapport aux déchets.
Donc ça, c'est un constat que vous avez fait sur nos comportements dans le domaine du tri, hein, c'est ça?
Alors c'est parti de là, et c'était surtout de se rendre compte que notamment les Français étaient prêts à faire beaucoup plus en matière de tri et en matière de consommation, mais que c'était très compliqué quand même à mettre en œuvre à titre individuel. Et on s'est dit que notre boulot, bah, c'était de mettre en place un dispositif qui permettait de lever toutes les frictions qui empêchaient les individus d'être des éco-citoyens, et surtout bah, savoir comment trier ses déchets, comment réduire son impact, où trouver les points pour remplir sa gourde, pour ne plus utiliser de bouteilles en plastique.
Alors, qu'est-ce que vous proposez? Parce que c'est une application, hein. Moi je l'ai téléchargée sur mon portable pour aller voir un petit peu, donc j'ai vu un petit peu tout ce qu'il y avait autour de la maison de la radio.
Il y a plein de choses qui vous ont étonné, Mathieu. Ben
oui, il y a des poubelles par exemple.
Des poubelles, c'est déjà ça, mais c'est bien de savoir où on peut trouver des poubelles.
Il y a des poubelles, il y a de quoi mettre de l'eau potable dans une gourde, parce que c'était ça aussi l'un des projets. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme proposition et service donc, sur l'appli?
Eh ben, ce qui vient juste, en fait, c'est une nouveauté chez nous, mais on a mis en place un partenariat avec une entreprise qui est aussi bretonne, qui s'appelle Mégo, qui est la seule entreprise en France qui permet de recycler les mégots. Et par exemple, on a cartographié sur Paris tous les cendriers qui permettaient de recycler les mégots. Et si vous regardez sur la cartographie, ben, en fait, il y en a obligatoirement à côté de chez vous. Mmh. En fait, nous, notre travail dans ce contexte-là, ben, c'est bien de révéler l'ensemble des ressources en termes d'économie circulaire d'un territoire, et notamment, si on parle de la maison de la radio, effectivement, autour de la maison de la radio, il y a plein de ressources pour soit mieux gérer ses déchets, soit éviter d'en produire.
Bon, vous allez pouvoir montrer ça aux députés, Camille, pour aller mettre les mégots, maintenant que vous faites la brigade du mégot.
Ou aux passants qu'on croise dans les rues en train de jeter leurs mégots. Il y a beaucoup, par exemple, de points d'eau potable en France, Alexandre?
Alors, nous, on en a recensé à peu près 67 000. C'est des données qui étaient déjà un peu ouvertes. C'est les données du service public, mais on a croisé ça avec des données de collectifs de cyclistes, par exemple, qui ont, eux, cartographié des points pour remplir leurs gourdes quand ils font du vélo. Et puis, c'est du contributif. C'est des gens qui vont eux-mêmes, à travers de l'appli, et bien, rajouter les points d'eau qu'ils connaissent. Ce côté contributif est valable sur tous les points qu'on référencie, c'est-à-dire aussi les magasins de vrac. Vous pouvez rajouter les magasins de vrac que vous fréquentez. Mais effectivement, cette logique de points d'eau et de gourdes était assez importante, et finalement, la ressource existait autour de nous, l'information existait autour de nous. Mmh. Mais nous, on s'est dit que c'était vraiment un enjeu. Alors, en plus, c'est l'actualité avec la logique de consignation des bouteilles en plastique en ce moment. Nous, on s'est dit, mais c'est bien de consigner les bouteilles, de mettre une contrainte à l'usage du plastique, mais si on facilite pas l'usage de l'alternative à la bouteille plastique, en fait, bah, on fait que la moitié du travail.
Ouais.
Et effectivement, nous, on a révélé cette ressource-là. D'ailleurs, on a vu que le public avait une très grosse appétence sur ce sujet-là. Hein, la pratique que qu'ont nos usagers confirme les sondages qu'on peut lire à droite à gauche, à de plus de 90% des Français qui sont prêts à faire beaucoup plus d'efforts sur la question des déchets. Et nous, notre volonté, c'est vraiment ça, c'est de faciliter en fait le comportement le plus vertueux.
Est-ce que vous êtes gourde friendly, Camille? Moi, j'adore
ça. Je suis un peu gourde parfois, gourde friendly certainement.
Ah mais non, mais gourde friendly, c'est accepter d'avoir des gourdes autour de soi.
Mais regardez, j'en ai une dans ma main.
Exactement. Ah, ça, c'est un truc que vous voulez développer, Alexandre.
Les bars gourde friendly.
Oui, en fait, on s'est inspiré de quelque chose qui se fait en Belgique. Il y a beaucoup de bars et restaurants qui acceptent qu'on vienne remplir sa gourde. Et nous, on s'est dit, en plus des points d'eau publique, et ça, c'est parce que la canicule a un peu fait ses effets. J'étais à Paris et moi, quand ma gourde à 10h30 le matin était vide, je savais pas trop où la remplir. Mmh. Et c'est vrai que la proposition, elle était plutôt d'acheter des bouteilles d'eau autour de soi. Et je me disais, j'irais bien dans un bar remplir ma gourde. Mais objectivement, je suis un peu timide de nature et j'ai pas osé. Je me disais, mais si quelqu'un me disait, là, t'as le droit, tu vas être bien reçu, ça serait plus simple. Et c'est comme ça qu'on a l'idée un peu de créer ce mouvement qui s'appelle Gourde Friendly, alors qu'on a commencé là en Bretagne. Et ce qui est très, très, rassurant pour le futur, mais en tout cas, nous, qu'on a trouvé très positif, c'est que l'établissement répond très favorablement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience profonde du sujet de la pollution plastique. Et surtout que ça dit qu'il y a un contrat social qui est en train de se mettre en place sur les territoires. On voit que c'est l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les consommateurs, les restaurants, les pouvoirs publics, qui s'articulent autour de la lutte contre la pollution plastique.
Voilà, donc on peut aller sur l'appli Oali avec des consignes de tri de tous les déchets, la cartographie des points de collecte publics, des fonctionnalités pour avoir des alertes pour sortir ses poubelles, pour pas oublier la déchetterie mobile, une cartographie des magasins en vrac. Voilà, tout ça vous le proposez, c'est oali.green, c'est le site internet qui est en lien sur la page de la Terre au Carré dans la rubrique Vos solutions pour la planète. Merci beaucoup Alexandre de votre passage aujourd'hui.
Au revoir.
Bonne journée. Bonjour Guy Vanctil.
Bonjour à toutes et à tous.
Dernier épisode de votre série de reportages au Groenland intitulé « Vivre dans un monde qui fond ». Vous êtes aujourd'hui avec les habitants d'un village de pêcheurs du sud-ouest de l'île, Narsaq, qui s'oppose à un projet minier rendu possible par le réchauffement climatique quand les Inuits font grise mine.
Oui, car la fonte des glaces aiguise les appétits pour de faramineux gisements jusqu'ici inaccessibles. Or, uranium, surtout terre rare indispensable aux nouvelles technologies, le sous-sol de l'île regorge de minerais qui font rêver la classe politique locale. Mais les habitants de ce petit village de Narsaq, eux, n'en veulent pas. Entre dégâts environnementaux, risques chimiques, retombées radioactives, beaucoup se mobilisent contre le projet des investisseurs sino-australiens. Alors je vous propose de rencontrer deux Groenlandais, de ceux qui refusent de baisser les bras, Niels et Marianne, mais avant, une petite carte postale.
C'est le matin, ici, à Narsaq. Et c'est vraiment un paysage de carte postale. On entend au loin le chien de traîneau qui aboie. Et surtout, il y a plein de verdure, des tapis de petites fleurs sauvages qui en profitent des quelques mois de soleil ici. Et dans ce petit village paisible, pourtant, gronde une mobilisation comme on en a rarement vu dans ce pays si pacifique qu'est le Groenland. Et c'est ici que vous m'avez donné rendez-vous, Marianne, parce que vous êtes un peu la pétroleuse de cette bande d'habitants qui refusait de voir votre coin du Groenland devenir une mine d'uranium et de terres rares. Et ça, je vois ça parce que je vois, vous avez votre petit badge au revers de votre veste et qui dit « Urani Namik ».
Urani Namik.
Non à l'uranium.
Urani Namik.
Urani Namik.
Urani Namik. Urani Namik.
Et ça, c'est les slogans que vous avez clamés quand vous avez fait la plus grande manifestation de l'histoire de ce petit pays de 56 000 habitants.
Yes, we have done it about 6-7 times.
À 6 ou 7 reprises, on a organisé des manifestations.
Narsaq.
Ici, Narsaq, Nuuk, la capitale, Copenhague. Et puis aussi le Nunavut, c'est les Inuits du Canada qui ont marqué leur soutien.
We need all the support to prevent the mine.
On a besoin de tout le soutien pour pouvoir empêcher l'ouverture de cette mine.
We have the cleanest air, then we have the cleanest country in the world, and why should we start to destroy it? Just saying that we have to keep on making some new iPhones.
On a l'air le plus pur au monde, on a la terre la plus propre au monde. Pourquoi on devrait le détruire pour faire des nouveaux iPhones tous les ans?
Yeah.
C'est du minerai qu'on trouve ici, dans la montagne.
La montagne de Kvenefjeld, dans le sud du Groenland. Ses sous-sols regorgent d'uranium et de terres rares, ces matériaux désormais indispensables.
Pour toutes les technologies vertes, pour les voitures hybrides, les batteries, on les utilise aussi dans les ordinateurs et dans les téléphones. Tous les gens qui ont des smartphones dans leur poche ont besoin de ces éléments rares.
Alors on s'installe, on met tout à l'arrière du pick-up. Il n'y a pas beaucoup de routes à faire, mais ici, les routes, il n'y en a pas beaucoup, de toute façon. Et nous voilà en route.
I am Nils. We have four children and my wife, and I live here.
Je m'appelle Nils. J'habite ici avec ma femme et nos quatre enfants.
This is a company, Greenland.
Voilà, c'est l'entrepôt de la société australo-chinoise Greenland Minerals and Energy. C'est eux qui veulent faire la mine. Dans les prochaines 50 années, on veut extraire près de 600 000 tonnes par an. C'est ce qu'annonce la société GME.
Yeah. And 1000 tons still.
Et des milliers de tonnes de poussière que ça va faire. Et c'est ça qui vous inquiète.
Yeah.
On est arrivé. C'est ici que la route s'arrête et on continue à pied. Nous voici sur un petit chemin avec une énorme falaise. Alors Nils, c'est ici qu'ils veulent faire cette gigantesque mine à ciel ouvert, qu'ils veulent chercher les terres rares.
Actually, it will start up there and down.
Ah, en fait, il y a encore 50 mètres au-dessus de nous, de la montagne, de la roche, et en fait, ils vont complètement araser la montagne et descendre petit à petit pour creuser ce qu'il y a dedans.
Yeah, and when they stop use this area, they will start in over there.
Et quand ils auront fini cette montagne aussi, ils ont prévu d'aller raser la montagne qui est en face.
280 000
tonnes d'acide sulfurique seront nécessaires à l'exploitation et à l'extraction de ces minerais. Une tonne extraite de la montagne, ça ne donnera tout au plus qu'un kilo de minerais. Et c'est pour ça que vous voulez vous battre, quoi. C'est pour ça que, avec les habitants de ce village, vous voulez tenir tête. C'est d'autant plus absurde et d'autant plus cynique que votre pays, en ce moment même, est en train de subir de plein fouet les conséquences du développement des sociétés occidentales auxquelles le Groenland n'a pas participé. Et maintenant, voilà, vous allez en plus devoir payer, vous autres habitants du coin, le prix pour essayer de développer des énergies non polluantes, en polluant votre terre. Dans les deux cas, on est en train de détruire votre pays pour la bonne cause.
Yeah. Yeah.
Voilà pour ce dernier reportage que vous avez signé, Guy Van Til, au Groenland. L'intégralité d'ailleurs est à réécouter sur la page de La Terre au Carré, sur franceinter.fr. Vous y avez mis également des vidéos, un diaporama.
Voilà, on peut retrouver tout ça et j'espère que ça va continuer. En tout cas, je voulais remercier aussi Malik Papis et Astrid Geyer qui m'ont bien aidé sur place. Et je voulais vous demander un petit service,
oui,
Mathieu.
Qu'est-ce
que vous pourriez nous aider au niveau de la direction pour pouvoir compenser carbone le
voyage? Ah
oui, voyage.
Pour votre voyage.
J'ai fait le calcul, on est un peu plus d'une tonne pour les deux reportages en Islande et au Groenland. Ce serait bien que la direction de France
Mais vous aussi, vous pouvez faire quelque chose, Guy.
Ouais,
on va planter des arbres, par
Allons-y.
Exemple. Allez, on se retrouve très bientôt. Le temps de vous laisser voyager pour nous rapporter d'autres sujets. Dans un instant, l'invité découverte est explorateur et chasseur de mammouths. Il s'appelle Bernard Bouygues.
Ça fait rêver.
Ouais. Il viendra nous parler du commerce des défenses de mammouths, un commerce qui pose problème en ce moment. Ce sera juste après Clara Luciani.
Luciani.
Voilà.
Clara Luciani.
Pas la peine de prendre l'accent italien.
Je ne sais pas si je suis encore vivante. Sinon, quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous. vous que je tords, c'est moi que j'assassine. Notre monde n'était rien qu'un léger malentendu qu'on a pris au sérieux. Fallait-il en arriver là? J'ai toujours eu pour nous des projets plus heureux.
Voilà, Clara Luciani, j'ai pris l'accent italien, j'aurais mieux fait prendre l'accent corse, hein, voilà. C'est ça, oh la gaffe.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bien, Ellie, je refuse que tu ailles plus loin. Crash, Eddie et toi, vous rentrez à la maison.
Mais oui, t'as raison, compte là-dessus.
Mais Ellie, tu as vu ce monstre? Allez là-dedans, c'est très risqué.
Parle à ma trompe.
Faut-il protéger le mammouth, une espèce pourtant disparue? En août dernier, la CITES, la convention qui encadre le commerce international des espèces menacées, a été saisie d'une proposition plutôt étonnante, à savoir classer le mammouth disparu, donc il y a quand même 3500 ans, comme espèce menacée, pour en interdire le commerce international de l'ivoire. Proposition non retenue pour l'instant, mais une étude sur le sujet va être lancée. Bonjour Bernard Bouygues.
Oui, bonjour.
Vous êtes avec nous aujourd'hui, explorateur, on vous présente comme chasseur de mammouth pour essayer...
Oui, voilà, parce qu'il faut bien définir des choses.
Vous sillonnez en particulier la Sibérie pour étudier ces animaux. Est-ce que le réchauffement climatique laisse apparaître beaucoup de carcasses là,
oui,
ces
bien
dernières
sûr, bien
années
sûr, il est très sensible. Ouais. Il est très sensible à mon niveau parce qu'on voit beaucoup plus de fossiles qui émergent du permafrost, mais il est très visible par des gens qui ne sont pas du tout influencés par l'information sur le réchauffement climatique, les éleveurs, les pêcheurs, les populations locales qui vivent sur place dans la toundra et qui voient des espèces migrer, même des espèces végétales. Et puis les étés sont beaucoup plus longs. Donc tout ça contribue à, par chance quelque part, à faire ressortir plus de fossiles, mais en même temps, ils ressortent plus vite, mais ils disparaissent plus vite. Mmh. Il y a des phénomènes d'érosion plus rapides.
C'est ça, il y a une désintégration.
Et puis, il y a la désintégration, parce que si ce sont des pays où il fait froid, c'est quand même exposé 5 mois par an au rayonnement solaire. Puis après le rayonnement solaire, il y a les pluies et la neige, ça pénètre dans les fossiles. Et puis après il y a le gel, là, ça fait éclater les choses.
Mais il y en a beaucoup. Qu'est-ce que ça représente en nombre? On arrive à l'évaluer ou pas en Sibérie?
C'est difficile à savoir parce que ce commerce entre guillemets ou cette recherche de cet animal qui était emblématique jusqu'à la fin du XVIIe siècle, ça a démarré au 15e, 16e siècle. Hein. On a des traces de commerce entre la Yakoutie et la Chine depuis le 16e, 17e siècle. Oui. Et donc, il en sort encore des tonnes. Aujourd'hui, c'est un peu difficile à évaluer parce qu'il y a beaucoup de marchés noirs, il y a beaucoup de trafic.
Donc c'est sur l'ivoire principalement?
Oui, c'est sur l'ivoire, oui. C'est sur l'ivoire. Oui, parce qu'il y a deux phénomènes qui se complètent dans la mauvaise direction. C'est que, et c'est une très bonne chose, là, il y a une protection sur l'ivoire d'éléphant, et sur l'éléphant, et je voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté par la suite dans ce que je vais dire là-dessus, il faut vraiment protéger les éléphants. Donc il y a moins d'ivoire sur le marché, et il y a plus de consommateurs d'ivoire en Chine. Il y a des millions de gens qui ont des niveaux moyens ou supérieurs, qui peuvent s'acheter un petit ou gros objet en ivoire, et ça a multiplié la demande par 500, 1000, je sais pas.
Mais c'est interdit à la vente, c'est interdit à l'achat.
Non,
l'ivoire
non,
d'éléphant.
D'éléphant, oui. Oui. D'éléphant, oui. Assez récemment, ça date de 4 ou 5 ans. L'ivoire de mammouth est libre, il n'y a pas de souci.
Vous dites des consommateurs d'ivoire, c'est-à-dire quoi? C'est pour les avoir chez soi? Ça vaut de l'argent?
C'est
quoi l'intérêt de consommer de l'ivoire?
Quand je dis consommateur, c'est parce que c'est un signe. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un d'important, ou si vous voulez l'honorer, vous lui faites cadeau un petit objet en ivoire ou un très gros, un très bel objet en ivoire. Il y a, parce qu'il y a toute une tradition chez les Chinois. Il y a des artisans, des sculpteurs qui passent 2 ans, 3 ans à sculpter une défense. Et qui raconte une histoire. Et il y en a qui prennent un bouquin pour s'endormir le soir avant de se coucher. Là, il y a des Chinois qui regardent ces défenses-là pendant des heures ou en tout cas de longues minutes parce que ça leur parle.
Est-ce qu'il y a une différence qualitative entre l'ivoire d'éléphant et l'ivoire de mammouth quand même?
Oui, il y a à peu près 10% d'ivoire de mammouth qui pourrait ressembler à de l'ivoire d'éléphant. Il y a beaucoup de déchets entre guillemets. Mais ensuite, on peut, à la taille, les défenses de mammouth, quand elles sont de mammouth adulte et mâle, elles ont une circonférence beaucoup plus importante, donc on peut faire des objets plus grands, alors que la circonférence d'une défense moyenne d'éléphant, je sais pas, ça doit faire 30 cm, ouais. Pas le diamètre. Hein.
Et alors cette idée justement de protéger l'ivoire de mammouth, qui fait donc l'objet d'un commerce abondant là en ce moment, en inscrivant cette espèce sur la liste des espèces en voie de disparition, ça a un sens pour vous ou pas?
Non, pour moi c'est surréaliste.
Ah bon?
C'est surréaliste. Oui, j'étonne tout le monde et je vais pas me faire des amis. Si vous voulez, ça fait 25 ans que je cherche des mammouths en Sibérie, enfin des mammouths et puis la mégafaune associée, parce que je m'intéresse à l'histoire de l'évolution de ces animaux qui ont pour la plupart disparu à cause du changement climatique il y a 10 000 ans. Hein. Et on a une opportunité de pouvoir étudier avec le mammouth un mammifère sur plus de 50 000 ans, en quantité suffisamment importante pour avoir une définition plus précise de ce qui s'est passé pendant 50 000 ans. Plus précise sur l'animal, plus précise sur les paysages, sur l'écologie donc, et l'évolution du climat. Et pour ça, comme la Sibérie, au-delà du cercle polaire, celle qui m'intéresse, ça fait à peu près la moitié de l'Europe, c'est un vaste territoire, il y a moins de 100 000 habitants qui habitent sur ce territoire-là, on peut pas faire des recherches directement. On est obligé de se faire aider en quelque sorte par des gens qui vivent sur place. Mais si on peut pas leur demander, on peut pas les payer directement, et si ce qu'ils trouvent, ils ne peuvent pas en faire le commerce, ils n'iront pas les chercher.
Donc vous dites d'un point de vue scientifique, c'est vraiment quelque chose qui pose problème et qui était un préjudice même pour la connaissance.
Oui, pour moi, oui. Sauf si on se met à faire des scénarios avec 10-15 exemplaires, ce qui se faisait au début du siècle sur les paillasses des muséums. Mais là, si on veut vraiment bien comprendre ce qui s'est passé depuis 50 000 ans, il faut pouvoir récupérer le maximum de matériel. D'autant que, de seconde, les défenses, maintenant, on sait lire les défenses de mammouth. Il y a 3 ou 4 isotopes qui nous disent beaucoup de choses sur la vie du mammouth à l'époque où il vivait, sur ses migrations et sur des questions auxquelles on n'a pas de réponse.
Ceux qui demandent l'inscription justement sur la liste des espèces en voie de disparition, c'est parce que justement ils disent en réalité ça encourage le braconnage des éléphants.
C'est vrai à la marge, mais le gros du c'est assez facile, contrairement à ce qui est dit dans l'article de Monsieur Buisson, c'est assez facile de reconnaître de l'ivoire d'éléphant et de l'ivoire de mammouth, surtout avant qu'il soit travaillé. Donc non, je crois que les gens qui proposent ça ont oublié les méfaits de la prohibition aux États-Unis sur le whisky et l'alcool. Ça va produire un braconnage terrible, un marché noir terrible. La frontière entre au niveau de Khabarovsk au fond de la Yakoutie, c'est une rivière sur laquelle il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barbelé. On traverse avec des petits bateaux, on peut transporter tout ce qu'on veut.
Ça vaut combien un kilo d'ivoire de mammouth, Bernard Buig?
Sur le terrain, ça doit valoir d'ivoire de qualité, d'ivoire qui pourrait ressembler à de l'ivoire d'éléphant. Sur le terrain, je dirais que ça vaut 600-700 dollars.
Le kilo.
500 euros le kilo.
Et ça pèse combien en moyenne une défense?
Là aussi, je suis pas d'accord avec ce qui est écrit dans le papier. Une défense moyenne, ça pèse 30-40 kilos. Après, les mâles produisaient plus de défense. Et produisaient de la défense toute la vie, alors que la production de défense chez la femelle se ralentit ou s'arrête même après la première grossesse. Donc, il y a de grosses défenses de vieux mâles et puis des petites défenses de femelles. Les petites, au kilo, ça vaut moins cher parce que on peut tailler des tout petits objets, tandis que dans les grosses, on peut. Donc, sur le terrain, ça hausse, je vous dis, 500 euros. Et puis, à Hong Kong, ça vaut jusqu'à 2000 euros le kilo. Quand ouais.
Donc, ça vous fait une paire à quasiment 300 000 euros.
Oui,
quand
oui,
vous avez un truc de très, très bonne qualité.
Et alors, vous comprenez qu'il vaut mieux aller à la chasse.
Ouais.
Il vaut mieux aller chercher des défenses de mammouth que d'aller à la chasse ou à la pêche. Hein.
Ouais. Ouais. Donc, ouais, mais c'est ça, c'est beaucoup plus lucratif, ouais. effectivement. Donc vous êtes plutôt d'accord avec ceux qui disent, bah, au contraire, il faut inonder le marché avec l'ivoire de mammouth, parce que ça va justement casser le marché de l'ivoire clandestin.
Ça va permettre, d'abord, il faut se donner un petit peu plus de moyens, mais c'est surtout, il faut occuper le terrain avec l'ivoire de mammouth, à condition qu'on ait pu l'étudier avant. Mmh. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les informations que
vous avez en amont.
Et oui, qu'on peut obtenir à partir des défenses.
Et vous repartez dans 2 ou 3 jours en Sibérie.
Oui, je pars encore un peu organiser la prochaine mission. Et puis, ça va être bientôt l'hiver, donc il faut penser déjà à moins de février-mars, quand le soleil se relèvera.
Merci en tout cas à Bernard Buick d'être passé par la Terre au Carré aujourd'hui.
C'est toujours un plaisir d'être
et bon retour, merci beaucoup. Bon retour en Sibérie. Denis Delbecq à la rédaction en chef de l'émission, Chantal Le Montagnier, Lucie Sarfati, Irène Menahem pour la préparation des dossiers et Clément Berman et Théo Gomard à la technique. Merci à vous.